prions.
Seigneur, je voudrais que tu nous viennes au secours et que tu nous aides à nous-mêmes comprendre l'urgence de l'évangélisation et de le faire. Merci pour ta parole. Nous voulons l'utiliser. Seigneur, que ce ne soit pas avec l'intelligence des hommes, mais que ce soit avec ta sagesse que cette parole soit annoncée. Merci pour tous ceux qui écoutent. Que cela soit pour chacun sa part de nourriture spirituelle d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Marc chapitre 2, du verset 15 au verset 17. Vous voyez, je me suis arrangé pour avoir deux versets, être court comme ça. Peut-être qu'on peut rattraper quelques minutes. Mais si je suis là jusqu'à 13 heures, ne m'en voulez pas. Hein. Vous allez peut-être en vouloir à Paul parce que c'est lui, pas moi. Vous savez comment les enfants sont, hein? C'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Hein? Marc chapitre 2, du verset 15 au verset 17. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et ses disciples, car ils étaient nombreux et il avait suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » L'Église et l'ambassade du royaume de Dieu. C'est ce que j'ai toujours dit. Et nous sommes des ambassadeurs chargés de la mission de réconciliation. Notre boulot, c'est d'emmener les hommes de notre temps, des femmes de notre temps, à se réconcilier, à faire la paix avec Dieu. C'est là tout le sens de ce que nous sommes et de ce que nous avons comme travail, annoncer l'Évangile. L'Église fait un double travail, à la fois le travail d'édification à l'intérieur de l'Église, qui consiste à organiser l'ensemble des activités pour emmener le chrétien à pouvoir rencontrer au sein de sa communauté le réconfort, l'encouragement, l'enseignement, le soutien, etc., l'encadrement, etc., spirituel, et parfois même, s'il le veut, plus que cela. L'édification, le fait de travailler ensemble, de bâtir une maison spirituelle pour Dieu, dans laquelle on lui offre des victimes expiatoires, des victimes spirituelles. Et puis, l'autre travail de l'Église, c'est aussi un travail d'évangélisation. Les deux sont liés, parce que tu ne peux pas aller gagner des âmes là-bas, et tu les emmènes dans l'Église, dans une Église pourrie. Dans une Église où il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas d'encadrement, ça ne va pas. Quand on va gagner des âmes à Christ et qu'on les ramène dans l'Église, il faut que l'Église elle-même soit équipée, dotée de possibilités de pouvoir accueillir la personne et pouvoir l'aider à grandir spirituellement. Et en même temps, les gens qui vont sortir pour aller apporter l'Évangile, c'est des gens qui sont eux-mêmes aussi préalablement formés. Formés dans la parole de Dieu, dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est pas des gens qui vont devoir aller évangéliser simplement sur les sentiments, je t'aime moi non plus. Mais c'est véritablement sur la parole de Dieu, sur ce que dit la Bible. C'est pour ça qu'il y a ce rapport, travail d'édification, travail d'évangélisation, ce travail qui se font ensemble dans l'ambassade qu'est l'Église de Dieu. Jésus-Christ était un homme qui avait une façon d'évangéliser, une manière de faire les choses. Et j'aimerais ce matin que nous puissions puiser dans ce texte un modèle pour l'évangélisation, un modèle que Jésus manifeste, montre à travers son comportement. Quand j'étais encore étudiant à Louvain-la-Neuve, je vais déplacer juste cette chaise parce que elle m'embête un peu. Voilà. Quand j'étais étudiant à Louvain-la-Neuve, nous étions déjà mariés. J'étais juste fraîchement marié, même pas encore un an. Pour trouver du boulot, j'ai postulé pour travailler comme garçon animateur dans un bar, le fameux bar des sauvages. Je crois que vous êtes tellement sages ici que vous ne connaissez pas le bar des sauvages. Ah, il y en a quand même quelques-uns qui connaissent. Voilà. Depuis, on a changé le nom. Ça s'appelle Bar de la Vie. Mais je trouve regrettable parce que c'était vraiment un vrai bar de sauvages. Bon. Voilà, j'ai postulé pour travailler là-bas parce que bon, ben voilà, il fallait quand même faire face à la vie. Et puis ma femme était enceinte et voilà, on va pas quand même commencer à abandonner l'équipe pendant que l'équipe est en train de monter en force. Et voilà qu'un jeune ami à moi apprend que je travaille au bar des sauvages. Cet ami a beaucoup de respect pour moi. Il est plus jeune que moi, il a beaucoup de respect. Et vous savez que les Africains peuvent avoir beaucoup de respect à l'égard des aînés quand ils estiment beaucoup cet aîné. Et ce garçon, il vient me voir, il était vraiment choqué. Il était vraiment choqué. Et il a su contenir ses mots pour me dire son indignation. Il n'était pas content. Comment ça se fait que toi, pour qui j'ai tant d'estime, toi, un chrétien aussi engagé et zélé pour le Seigneur, tu vas travailler dans un lieu aussi mal famé? Comment? Explique-moi! Tous les arguments que je pouvais avancer servaient à rien. Il était choqué. J'ai dû donc lui promettre que je vais prier pour trouver un autre boulot. Comme ça, ça va lui faire plaisir. Voilà, il y a... je peux m'imaginer que Jésus était dans la même situation. Lorsque le voilà assis à table avec des gens de mauvaise vie, des gens qui ont une sale réputation, des malhonnêtes, des voleurs, des gens qui sont considérés comme des vrais païens, etc., à la solde de l'oppresseur romain, etc., je peux comprendre que ceux qui se sentent religieux puissent condamner et dire « Mais qu'est-ce qu'il fiche là-bas avec ces gens? Comment est-ce qu'il peut rester avec ces gens ?» Mais je vois, dans la réponse de Jésus, je vois une réponse qui est simple et claire, mais une réponse qui tranche avec la vision des pharisiens et des scribes. Je vois une réponse qui peut peut-être être une indication pour nous sur le modèle de l'évangélisation pour Jésus. Si Jésus était là aujourd'hui, il serait en semaine souvent dehors, hors de l'église. Il serait en train d'aller vers les gens pour leur parler de Dieu. C'est sûr qu'il participerait au culte le dimanche. C'est sûr qu'il serait fidèle aux réunions de prière, aux réunions d'études bibliques. C'est sûr qu'il sera fidèle à tout ça, mais il sera souvent, souvent dehors. Pour lui, l'annonce du royaume des dieux est une priorité. Il vit de cela. Il fait de cela sa vie. Vous me direz, oui, mais, attends, oui, Jésus, d'abord, un, c'est le Seigneur, et puis deux, il avait le temps, lui. Il faisait que ça. Nous, on n'a plus le temps. Il est vrai, on doit travailler dans la semaine. On doit s'occuper quand même de nos responsabilités. Sinon, on est des vrais irresponsables et ça crée des problèmes. Et puis nous, on n'est plus à cette époque-là. Alors, comment concilier cette exigence-là avec notre réalité d'aujourd'hui? Comment? On n'a pas le temps d'aller à gauche et à droite pour évangéliser. C'est ce qu'on va se dire. C'est vrai tout cela. C'est vrai. Mais dans l'espace qui est le nôtre, dans les temps, dans le timing qui est le nôtre, nous pouvons être créatifs, imaginatifs. Nous pouvons créer du temps. Nous pouvons trouver du temps. Nous pouvons créer de l'espace si c'est vraiment important pour nous d'évangéliser. À Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus. Vous savez que, à la place de chercher premièrement, il y a l'autre mot qui est aussi traduit avec ça. C'est préoccupez-vous premièrement. Que le royaume de Dieu et sa justice deviennent une préoccupation première, une préoccupation principale. Et ça change tout. Ça change tout. Je peux être préoccupé par quelque chose sans pour autant que cette chose-là m'accapare dans le sens que je suis tout le temps là-dedans. Vous savez combien ne sommes-nous pas là en tant que parents qui partons au boulot avec des préoccupations familiales. Combien ne sommes-nous pas là qui faisons des choses alors que nous avons des préoccupations dans notre tête, des soucis, des choses qui nous accaparent. Comprenez? Vous suivez où je vais en venir? Lorsque l'évangélisation, lorsque les choses du royaume de Dieu deviennent notre préoccupation, alors ça occupe notre pensée, ça occupe notre façon de vivre, ça occupe notre manière d'organiser notre temps. Et ça change tout. Ça change tout. Et voyez, qu'est-ce qu'on gagne de faire ça? Que dit le texte? Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Vous savez, toutes ces choses, c'était quoi? Jésus avait commencé cette exhortation avec les préoccupations matérielles. Il disait, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas du lendemain, ne vous inquiétez pas si vous êtes pour la nourriture, pour ceci, pour vos besoins matériels, ne vous inquiétez pas. Parce que ce qui est important, c'est d'abord le royaume des cieux. Et puis, Dieu donne le reste par-dessus, abondamment. Dieu est un Dieu qui est généreux, qui donne jusqu'à la mesure qui déborde. Demandons à Dieu de nous apprendre à être créatifs. Demandons à Dieu de nous apprendre à être imaginatifs pour toucher les gens autour de nous. Laissons-nous former à ce travail. Apprenons à les versets bibliques adéquats. Lisons des histoires sur les témoignages. Lisons des messages d'évangélisation. Écoutons des messages d'évangélisation. Inspirons-nous de ça. Développons un langage clair et précis pour dire aux gens exactement en quoi consiste le salut en Jésus-Christ. Nous pouvons nous former personnellement. Nous pouvons nous mettre dans la prière, demander à Dieu, à travers la prière, faire une liste des personnes que nous voudrons atteindre, se dire sur une année, voilà, moi j'aimerais bien que mon fils, ma fille, mon garçon, etc., etc., je veux que je puisse avoir l'occasion de pouvoir lui parler de Jésus, lui voir échanger et préparer ça dans la prière pendant tout un temps. Je dis pas que nous allons réussir. Je dis pas que après avoir prié pendant 6 mois ou je sais pas moi combien de temps et que après je vais dire voilà Seigneur maintenant je voudrais parler, je suis pas toujours sûr que vous réussirez. C'est pas votre problème. La réussite, c'est pas votre problème à vous. Votre problème à vous, c'est de faire le boulot. C'est de prier et d'ouvrir la bouche. C'est de prier et d'agir de manière à ce que l'intérêt de l'autre pour le royaume de Dieu s'éveille. Ça, c'est notre boulot. Ça, c'est notre tâche. Prions Dieu. Demandons à Dieu vraiment que, véritablement, il nous aide à être ces personnes-là. Prions chaque jour pour l'évangélisation, pour tous ceux qui y travaillent. Prions pour toutes ces âmes qui sont perdues, ces âmes qui sont blessées, ces âmes qui ont besoin de Jésus. Ces âmes, j'oserais dire que si elles ne trouvent pas Jésus sur la terre, ne le trouveront pas au ciel, mais brûleront en enfer. Jésus montre un modèle d'évangélisation qui est un modèle axé sur le relationnel. Le fait qu'il est en contact avec les gens, il va vers les gens, il sympathise avec les gens. Manger avec quelqu'un en Israël était un signe d'amitié, d'intimité, un signe qu'on lui montre que je suis amical avec toi, je suis proche de toi. Jésus montre un modèle d'évangélisation par le relationnel. Les gens qui sont proches, les gens qui sont autour de nous. Et Jésus ne regarde pas qui il va évangéliser. Il cherche les perdus. Et peu importe ces perdus. Qu'il soit grand, petit, voleur, pas voleur, c'est pas son problème. C'est les perdus qu'il cherche. Mes frères, nous sommes souvent piégés. Si vous voyez un clochard tout sale, tout puant, c'est pas vers lui que vous allez avoir le courage d'aller parler de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il pue. Parce qu'il pue. Je veux pas que les gens me voient avec. Si vous voyez quelqu'un de très agressif, de très violent, vous allez ouh! Nous, on regarde toujours à qui on a affaire. Mais Jésus ne regardait pas. Le regard de Jésus sur les gens était un regard toujours de compassion et d'amour. Il y avait toujours dans le cœur de Jésus cet espoir que cette personne perdue peut être sauvée. Comment est-ce que nous voyons les gens autour de nous qui sont perdus, les hommes, les femmes? Comment nous les voyons? Jésus recherche le salut des âmes. Il recherche cela. La relation qu'il établit avec les gens, l'amitié qu'il fonde avec les gens perdus, n'a pour vocation véritable que de les emmener à la connaissance du Seigneur Jésus. Nous, parfois, nous avons des amis. Ils deviennent tellement amis à nous que nous commençons à imiter le mal qu'ils font. Je me souviens d'un ami à Louvain-la-Neuve qui était chrétien. Et il voulait évangéliser les gens qui sont alcooliques. Parce que lui-même a été alcoolique. Et donc il me dit tout fièrement, « Frère, moi je vais au bar de sauvage pour évangéliser les alcooliques. » Je dis, tu as un passé d'alcoolique, toi? Oui. Je dis, je sais pas si c'est ça, je t'en parle. Oh! Non, je vais y aller. Et puis un beau matin, je le croise en train de zigzaguer, il était complet, il était mort plein, quoi. Avec ses copains qui étaient mort plein aussi, et il m'explique qu'il est occupé à les évangéliser. Je dis oui. Il dit oui, sûrement, certainement. Et malheureusement pour lui, ça a dû aller tellement loin qu'il a dû aller faire une cure pour se désintoxiquer. Notre rôle n'est pas, par rapport aux amis du monde, de les rejeter, de les refuser. Non, notre rôle est de les aimer et de prier pour eux, de demander le salut. De demander que Christ nous inspire, nous illumine, nous rende créatifs pour savoir comment leur parler de Dieu, comment placer la parole de Dieu. Mes amis, si nous ne faisons pas le boulot nous-mêmes de nous informer, d'apprendre comment on évangélise, nous ne saurons jamais le faire. Ne vous dites surtout pas, je vais commencer à parler de Jésus à quelqu'un sans que vous ayez des bases, hein. Vous perdez votre temps, hein, parce qu'il suffit qu'il vous pose 2-3 questions. Je vais demander à mon pasteur, tu attends, stop, bouge pas, je vais demander à mon pasteur. Non. C'est pour ça que c'est important que nous puissions apprendre. Et mes amis, l'Église peut toujours vous apprendre. Si vous en avez envie, si vous venez me voir, je ne dirai jamais non. Mais vous avez du boulot aussi chez vous à la maison. Et ce n'est pas difficile. Le boulot commence dans la prière. Mettez-vous à genoux, Seigneur. J'ai envie de parler avec les gens. Donne-moi les paroles. Donne-moi l'attitude. Donne-moi le témoignage. Donne-moi le comportement. J'ai envie de parler. Enseigne-moi. Donne-moi ta parole. Dis-moi dans ta parole qu'est-ce qu'il y a que je peux dire aux gens. Vous avez une Bible, prenez votre Bible. Vous voulez évangéliser, prenez une Bible, achetez une Bible. Soulignez tous les versets qui concernent le salut. Et commencez à les retenir par cœur. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai retenu par cœur les versets qui concernent le salut. Comme ça, je pouvais les transmettre aux gens sans devoir tout le temps les chercher dans ma Bible. On peut lire les témoignages. À travers les témoignages des gens, comment les gens ont trouvé le Seigneur, ça peut nous rendre imaginatifs, ça peut nous rendre créatifs pour savoir comment communiquer aux autres. Parfois même, comment on peut même partager le témoignage qu'on a lu à quelqu'un en disant, tiens, tu sais quoi, j'ai vu ça, et puis il racontait l'histoire. On peut écouter les messages d'évangélisation. Moi, les messages qui m'ont inspiré le plus, qui m'ont enseigné sur l'évangélisation, sont les messages de Billy Graham, les petits livres qu'il a fait avec lorsqu'il donnait des émissions à la radio. Soyons imaginatifs. Jésus, à travers ce texte, nous montre un modèle d'évangélisation axé sur le relationnel. Il n'est pas venu pour les gens qui sont sauver les gens qui sont justes, qui se sentent bien. Il est venu pour les gens qui sont perdus. Et les gens qui sont perdus, ce sont les gens qui ont besoin d'un médecin. Cette image est forte. Ceux qui sont dans le domaine des soins de santé, dans le domaine de l'art de guérir, savent très bien combien, quand quelqu'un a besoin d'être guéri, il va courir vers le médecin. Demandons à Dieu de pouvoir être les passeurs de messages, les passeurs vers le Seigneur, des gens qui prennent la main de quelqu'un et l'emmènent vers le Seigneur. Considérons les âmes perdues, non pas comme des gens antipathiques, des gens qu'il faut surtout éviter, mais comme des gens qu'il faut gagner à Christ. Et demandons à Dieu que ça soit notre priorité, notre préoccupation centrale dans nos relations. Pas avoir des amis pour les intérêts, pas avoir des amis pour imiter leur façon d'être, mais avoir des amis pour pouvoir leur parler de Jésus et pouvoir les amener à Christ. Voilà, j'espère que j'ai un peu trituré mon texte, mais j'ai voulu prendre l'essentiel de ce que je voulais partager. Que le Seigneur nous aide à être véritablement ces personnes engagées et qui ont le désir de mettre Dieu au centre de leur vie. Et nous avons un retour en bénédiction dans notre vie de tous les jours. Arrêtons d'avoir peur. Arrêtons d'avoir des réserves, d'être complexés, de se dire « ouais, on ne sera pas à la hauteur, etc. » Arrêtons, mais préparons-nous en conséquence. Ayons notre assurance basée à la fois sur le fait que nous ne sommes pas seuls lorsque nous évangélisons, c'est le Seigneur qui nous accompagne par son Saint-Esprit, mais aussi développons cette assurance en apprenant vraiment à connaître la parole de Dieu. Et une fois qu'on a les deux, nous pouvons parler avec les autres de Jésus. Amen. Prions. Seigneur, merci pour le peu que nous avons pu partager dans ta parole et nous voulons te demander que cela puisse faire son travail. Et merci notre Dieu d'être là pour combler nos vies, de ta présence et de ton aide. Nous avons besoin, Seigneur, que Otigny, que cette région soit embrasée, cette région des hommes et des femmes qui te cherchent, te trouvent. Seigneur, nous avons besoin que nous développons une vie de prière en faveur de ton œuvre dans cette région. Aide-nous à être non pas des spectateurs, non pas des assistants, mais des participants, des acteurs à cette œuvre. La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Seigneur, que nous soyons ces ouvriers et que nous prions aussi pour d'autres ouvriers et pour cette moisson. Seigneur, engage-nous dans ce travail au nom de Jésus. Amen.